Campus FM. Plusieurs fois dans l'année, ben, on a la joie d'accueillir un ou une intervenante de la Ligue de l'enseignement. Et pour aujourd'hui, ben, ce n'est pas un ou une, mais ce sont deux invités que nous recevons. Donc Tiffaine, responsable du service vie associative, et Philippe, président donc de la Ligue de l'enseignement. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et donc, il y a un sujet qu'on a déjà abordé avec toi, Tiffaine, avec d'autres intervenants, la loi 1901. Mais là, on va revenir un petit peu, notamment aussi avec Philippe, sur un peu le fond, on va dire, de cette loi, cette historique et tout cela. Et ce que je propose, Philippe, ben, c'est déjà de nous présenter pourquoi, ben, pour vous, la loi 1901, eh ben, c'est une liberté fondamentale à défendre.
Oui, c'est une liberté fondamentale. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est par cette loi que deux personnes, il suffit d'être deux personnes peuvent se réunir, se rassembler pour travailler, pour faire des choses, pour construire des choses ensemble. Et surtout, elle est fondamentale parce qu'ils n'ont besoin d'aucune autorisation préalable. Mmh. C'est un choix de personnes de se retrouver ensemble. Alors, elle est aussi liberté fondamentale parce qu'elle est née en 1901. Et que c'est un moment où toutes nos libertés fondamentales sont en train de naître. C'est une période extraordinaire, la Troisième République, la période de la Troisième République avant la Première Guerre mondiale, où toutes nos libertés fondamentales naissent pratiquement ensemble à quelques années ou décennies près.
Mmh. Et justement, on va revenir un petit peu aussi sur comment on a arrivé là. Et justement, la loi en elle-même, elle s'est pas faite du jour au lendemain. Et si on devait donner quelques exemples, ou quelles sont les prémices, on va dire, de cette loi 1901?
Les prémices de l'association, elles existent depuis le Moyen-Âge. Depuis les Moyen-Âge, les ouvriers, qu'on appelait pas encore ouvriers, mais les gens qui travaillaient pour des responsables, se réunissaient déjà. C'est une tradition, j'allais dire, que depuis que l'homme vit en société, ils se réunissent. Simplement, ils se réunissaient selon des règles établies, et les règles établies dans le cadre d'une société féodale, donc avec des obligations à respecter, et ces corporations qui ont fondé nos villes, hein, si vous allez vous promener dans des villes un peu anciennes, vous avez encore des rues de ces corporations, corporations de marchands, corporations de tous les métiers. Mmh. C'était une unité de vie ensemble, mais qui était régie, c'était pas l'individu qui comptait, c'est la corporation avec les responsables de cette corporation, qui ont d'ailleurs été à l'origine des villes, d'ailleurs elles-mêmes, de tout ce qui n'était pas la noblesse, tout ce qui était organisé autour de corporations. Mmh. Et la date clé, c'est bien sûr la suppression des corporations par la Révolution française. Tout simplement, quand nos ancêtres révolutionnaires décrètent l'égalité devant la loi, les corporations peuvent plus exister. Mmh. Et donc, il a fallu encore un siècle après pour construire une nouvelle loi qui permettait que les gens puissent se réunir autour d'objectifs communs.
D'accord. Et justement, ben, vous venez de le dire un petit peu, mais on va dire par rapport à, on va dire que ça a été des étapes, mais on va dire avant 1901, il y a d'autres sociétés qui ont participé à cette création de cette loi 1901. Et on va dire s'il y avait quelques dates ou quelques étapes marquantes qui nous ont amenés à 1901.
Oui, alors les étapes marquantes, hein, la première étape, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Mmh. C'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, hein, les hommes naissent libres et égaux en droit. Mmh. Et tous les hommes naissent libres et égaux en droit, et cette Déclaration universelle est le point de départ de toutes nos libertés fondamentales et de cette liberté d'association. Mmh. Alors les autres étapes, c'est la difficile construction d'une république tout au long du 19e siècle, avec des allers et retours sans arrêt. Le premier empire, c'est un retour en arrière. On n'est pas revenu complètement en arrière, mais les libertés individuelles sont quand même restreintes. Et puis vous avez les étapes du 19e siècle jusqu'à la Commune de Paris, où on espère retrouver toutes les libertés, et cet échec du Second Empire, avec la guerre de 70 qui se termine mal pour l'Empire, mais bien pour la République, puisque c'est la République qui triomphe. Et après, c'est une marche, il faut bien penser, autour de toutes les libertés fondamentales. Alors, principalement, en même temps que les associations, ce sont les syndicats, qui étaient horriblement réglementés, quasi interdits. C'est la liberté de conscience, c'est la laïcité qui se construit en même temps, hein, 1901-1905. Oui. C'est le même mouvement, les mêmes parlementaires, les mêmes députés qui, quand même, coup sur coup, font deux lois, trois lois, tout à fait fondamentales.
Ouais. Et justement, ben, comment cette loi, on va dire, a participé justement à la conquête de ces libertés fondamentales?
Alors, il faut bien voir un mouvement commun. La France connaît des crises de liberté très difficiles. Ouais. On est quelques années après l'affaire Dreyfus. Hein, et à ce moment-là, et on est à un moment où la liberté de la presse n'est pas encore complètement gravée dans le marbre. Et c'est en même temps. Donc, liberté d'association, liberté de la presse, liberté de conscience, tout ça se fait en quelques années et dans un contexte quand même de conflit, hein, de conflit, notamment avec ce qui a expliqué qu'il a fallu de longs mois de débats parlementaires. Et là, il n'y avait pas de 49-3, hein. on débattait jusqu'à ce qu'on trouve une majorité de parlementaires pour écrire une loi. Donc de longs mois de débats parlementaires, parce que autant nos députés étaient majoritairement d'accord pour accorder cette liberté d'association, autant ils ne voulaient pas que les congrégations religieuses soient incluses dans cette loi. Donc, disons, la gauche de l'Assemblée nationale en voulait pas, et le centre-gauche disait non, si on fait une loi de liberté, on va pas commencer à priver une partie des associations de cette liberté. Et c'est ce qui explique le long débat jusqu'à ce qu'on accepte que les congrégations religieuses puissent bénéficier d'une liberté d'association, même si elle a très vite été un tout petit peu limitée. Mais on y reviendra.
On y reviendra. Ok. Et donc voilà, là, ça nous permet de comprendre comment on est arrivé à cette loi 1901. Ça fait plus d'un siècle maintenant. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu justement sur les principales évolutions justement de cette loi 1901?
Oui. Alors peut-être pour commencer, rappeler ce que c'était au départ. Je crois que c'est très important. C'est vraiment une loi qui voulait permettre aux femmes et aux hommes de s'associer sans aucune demande préalable et sans aucune contrainte. Mmh. La seule contrainte, c'est l'objet de l'association. On ne s'associe pas pour n'importe quoi, et nous sommes là à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, la naissance du grand capitalisme. On ne s'associe pas pour faire des bénéfices. Mmh. Enfin, très clair, c'est la seule exclusion de la loi. On peut s'associer pour ce qu'on veut, sauf pour faire des bénéfices. Mmh. La loi n'exclut pas que les opérations de 2 ou X personnes associées ne soient rentables, mais le bénéfice est au service de l'association. Mmh. Il n'est au service de personne d'autre. Nous sommes au début du grand actionnariat, et surtout, bien sûr, le bénéfice ne rentre pas dans un système d'actionnariat. Mmh. C'est la limite majeure. La seule limite en 1901, c'est bien pour travailler, faire quelque chose, produire quelque chose ensemble qu'on s'associe.
Il est bon de rappeler.
Et à cette époque, au départ, c'était finalement beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Hein, Tiffaine, tu nous rappelleras ce que c'est aujourd'hui. Mais au départ, le contrat d'association est un contrat simple. Oui. C'est-à-dire que ça peut être 2 personnes qui signent un engagement réciproque, ou X personnes qui signent un engagement réciproque, avec très vite une responsabilité, bien sûr. Il y a très vite, on instaure des responsabilités, la responsabilité du président, par exemple, elle arrive très très vite, mais encore une fois, d'une manière relativement souple. Il suffit qu'on ait écrit et qu'on dépose ce qu'on a écrit auprès de l'autorité compétente, qui est le préfet.
Le préfet. Mmh.
Tout ce qu'on a inventé après et qui est très utile a été inventé parce que il fallait trouver sûrement un cadre un peu plus important. Mais au départ, c'est très simple. Il y a une assemblée générale, même si elle porte pas le nom tout de suite, mais c'est tout le monde. L'assemblée générale, c'est tous les gens qui s'associent ensemble. Et cette assemblée générale, très vite, elle élit un responsable. Et c'est seulement après qu'on instaure, parce que les associations grossissent, quelque chose qui est entre l'Assemblée générale et le responsable, le conseil d'administration, puis le bureau avec des élus qui ont des responsabilités particulières. Mais fondamentalement, ce n'est pas la loi de 1901. Mmh. Elle se résume au droit imprescriptible de s'associer.
De s'associer. Mmh. Ouais, ouais, c'est bien de rappeler. Est-ce qu'il y a eu d'autres, parce qu'en fait, ces ajouts, en fait, de, c'est même pas des contraintes, mais ces possibilités-là, justement, elles sont arrivées, comme vous l'avez dit, parce que, bah, tiens, les associations ont grandi et on pouvait plus passer de l'Assemblée Générale au Président, et donc il fallait des institutions intermédiaires, entre guillemets, mais, est-ce qu'il y a eu d'autres étapes, on va dire, qui ont fait que la loi 1901 a évolué ou est peut-être interpellée différemment, parce qu'en fait, la loi, elle reste celle-là, c'est ça?
Oui, elle reste celle-là. La loi, c'est comme la loi de 1905, ce sont des grandes lois qui n'ont pas connu du tout de modification. Il y a eu des textes complémentaires, mais la loi, le respect de la loi initiale va presque jusqu'à aujourd'hui. Je dis presque, on verra que c'est un peu contesté aujourd'hui, mais globalement, la loi n'a pas bougé. C'est vraiment la nécessité du fonctionnement des associations et surtout, une des caractéristiques qui date de juste avant la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est la professionnalisation de certaines associations. Mmh. On est parti d'associations d'engagés, de bénévoles, et même notre grande association, la Ligue de l'enseignement, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, est majoritairement constituée de bénévoles. Et donc, l'organisation de bénévoles ne nécessitait pas de règles très strictes. Par contre, depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes devenus, comme toutes les grandes associations et comme de nombreuses associations, des associations qui associent des salariés à qui on doit respecter le droit du travail et des bénévoles. Ce qui fait qu'on a jugé indispensable d'organiser effectivement des CA, des bureaux, d'avoir des trésoriers, d'avoir des secrétaires dans le bureau. Mais c'est plutôt la nécessité qui a impliqué qu'on fasse ça plutôt que un État qui voulait régenter
tout à fait
les associations.
Oui, il est bon de le rappeler. Tiffaine, tu voulais compléter?
Oui, en fait, effectivement, je pense que ce qu'il est bon de rappeler, c'est que comme la loi n'a pas spécialement évolué, et surtout elle est large et souple, c'est vraiment les mutations du bénévolat au fur et à mesure des décennies, dont on pourrait revenir sur une émission entière, qui a rempli cette nécessité d'un cadre, d'une structuration. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, finalement, quand on dit qu'il y a débat sur les associations, il n'y a pas spécifiquement un débat sur la loi 1901. A contrario, il y a un débat sur ces mutations des formes d'associations. Ainsi, quand à un moment donné, cette forme un peu pyramidale, hiérarchique, avec un président, un secrétaire, un trésorier, qui est associé aussi aux formes de société à l'époque où ça a été créé, aujourd'hui fait débat, et qu'on a de plus en plus de collégialité ou d'associations qui n'ont pas envie de se déclarer car elles pensent peut-être... ou à raison ou à tort, ça dépend de chacune, que ça va les contraindre, il est bon de rappeler que ça n'est pas la loi qui contraint, mais c'est bien la structuration associative, et la loi n'impose aucune de ces structurations associatives. Mmh. Donc il y a plus une mutation du bénévolat et des formes associatives à l'heure actuelle.
Oui, oui. Alors, et puis les statuts aussi, tous les statuts font que...
Je peux peut-être donner deux exemples. Il se trouve qu'on a très vite, on a les associations elles-mêmes se sont classées, se sont organisées en associations d'intérêt général, j'ai envie de dire celles qu'on met toutes dans le même panier, mais parmi elles, il y a des associations qui sont reconnues d'utilité publique par l'État. Et voilà, elles sont d'utilité publique, donc il y a une forme de délégation de services publics auprès d'associations reconnues d'utilité publique, et à partir de là, l'État, le Conseil d'État, impose des règles. Oui. C'est parce qu'il délègue à une association ce qui est d'utilité publique qu'il impose des règles. Alors des règles sur le fonctionnement, sur le règlement intérieur de l'association, sur les statuts de l'association qui doivent être conformes. Et ce sont les seules associations où les statuts sont validés jusque au sommet de l'État. Mmh. C'est le ministre de l'Intérieur qui valide les statuts d'associations reconnues d'utilité publique. Alors, il ne les valide pas sur des critères de contenu, mais sur des critères de forme. Il faut respecter un tas de formes, et donc toutes les associations qui sont reconnues d'utilité publique ou qui sont très près, comme la Ligue, elles font des statuts qui ressemblent au statut type des associations reconnues d'utilité publique. Je donne un deuxième exemple. On a près du quart de nos associations en France qui sont des associations sportives. Et les associations sportives ne sont pas reconnues d'utilité publique, mais sont obligées de suivre les règles du sport.
Oui.
Et les règles du sport, en matière d'assurance, comme en matière d'un tas de petits détails, sont un peu différentes des associations d'intérêt général qui, elles, sont encore plus proches de la loi de 1901 dans son essence.
Mmh. Oui, puis après, bien qu'on rappelle que, par rapport à ce que tu dis aussi, par rapport à la loi de 1901, et puis aujourd'hui, une association, c'est l'association qui va demander d'être reconnue d'utilité publique, et des fois, ben, on aurait tendance à inverser, en fait, c'est l'État qui... Mais non, au départ, c'est quand même l'association qui a choisi de s'intégrer dans cette démarche-là pour diverses raisons, mais en aucun cas, c'est l'État qui va dire, vous devez être reconnue d'utilité publique. Ne pas inverser les rôles, quoi.
Oui.
Voilà.
Oui, oui.
Ok, ben ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale et puis on se retrouve dans quelques minutes pour continuer à aborder cette thématique de la loi 1901. A tout de suite.
A tout de suite.
Yeah.
Alors, hein, ben, vous êtes toujours allé à l'écoute hein, de Petit Gibus FM et on continue notre émission Question en vrac à Le Brac avec donc Tiffen qui est responsable du service vie associative et Philippe donc qui président lui de la Ligue de l'enseignement et on continue un petit peu à décortiquer. On est revenu un peu pas mal sur l'historique d'où venait cette loi, quelles ont été les étapes, quelles sont aussi les évolutions qu'on a pu avoir. Est-ce que vous aviez des compléments à faire sur ces rappels en fait des caractéristiques ou est-ce qu'on a fait le tour de la loi 1901 avant qu'on enchaîne?
Oui, peut-être juste la question des congrégations. Mm-hmm. Pourquoi ça a été compliqué? Eh bien, tout simplement parce que dès 1901, le gouvernement ne voulait pas cette liberté d'association totale pour les congrégations. Et donc, ce sont les seules exceptions d'associations qui ont une autorisation préalable. Mm-hmm. Tout simplement.
D'accord.
Par souci, hein, nous sommes sur la conquête de la laïcité, par souci pour que les églises, et on peut se le dire entre nous, l'église catholique, ne crée pas trop de nouvelles congrégations. Donc l'État a exigé une autorisation préalable, au départ surtout pour en limiter le nombre.
D'accord, ok. Et sur les associations cultuelles, est-ce qu'il y a d'autres des régimes d'exception?
Oui, alors il y a des régimes d'exception parce que notre pays adore les exceptions. Donc il y a une loi de 1906, une loi de 1908 et surtout il faut rappeler que nous avons encore 3 départements qui ne connaissent pas la loi de 1901. Les 2 départements alsaciens et la Moselle.
D'accord.
Et donc ces 3 départements ne fonctionnent quand même pas complètement sous un régime antérieur, mais ont un régime d'exception.
D'accord.
Ont un régime d'exception qui est selon les lois en vigueur en Alsace et en Moselle. Mais rassurez-vous, sur le fond, ils sont sur la même liberté d'association mais simplement, ils connaissent pas la loi de 1901.
D'accord. Donc les associations n'ont pas ce statut-là de voilà. D'asso loi 1901. D'accord. Mais bon, on va dire que sur le fond c'est pareil.
Voilà.
D'accord. Je savais pour l'Alsace, mais voilà, je ne savais pas qu'il y avait un troisième département.
Eh oui.
Qui est proche quand même de l'Alsace. On revient un petit peu sur le secteur associatif aujourd'hui. Et je me dis, ben voilà, on a bien eu cette historique et de revenir aussi justement sur les chiffres, quelques chiffres un peu des réalités d'aujourd'hui. Parce que, ben aussi, on entend souvent le bénévolat, c'est plus comme avant. Il n'y en a plus autant, on arrête et ça. On s'aperçoit que les chiffres, c'est pas totalement ça, hein, Tiffaine.
Oui, effectivement, il y a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, il y a une mutation qui est en cours, mais ça ne signifie pas que le bénévolat pour autant est en train de mourir, comme on l'entend souvent. Mmh. Déjà, pour ne citer que des chiffres dans le Doubs, on a plus de 15 000 associations dans le département du Doubs.
Ouais, c'est énorme.
Ce qui, en proportion, est quand même déjà assez important. Et en nombre de bénévoles, on a à peu près 20% de la population du Doubs qui est bénévole, qui est engagée. Donc, plus ou moins, ça, on est tous au courant que certains ont 3 formes de bénévolat, d'autres juste quelques heures de temps en temps. Mais on a entre 100 et 110 000 bénévoles dans le Doubs qui sont aujourd'hui actifs. Donc là aussi, c'est vraiment cette forme, en fait, d'engagement qui a été modifiée, mais pas le désir d'engagement au départ. Tout comme on a un début de restructuration aujourd'hui de la forme d'association, mais non pas la mort de l'association en elle-même.
Ah oui. Ok.
Je pense que c'est important aussi peut-être de citer, je vais laisser la parole à Philippe, mais tout ce qui concerne aussi le secteur des associations employeuses, pour rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure et le lien avec l'État, il y a aussi une proportion très importante dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui se revendique énormément à l'heure actuelle à travers nos banques et nos mutuelles notamment, mais le secteur associatif est extrêmement présent.
Oui, oui, et donc Tiffaine vous donnait les chiffres pour le Doubs. Pour la France, c'est plus +1 300 000 associations, ce qui est quand même considérable. Et 12%, alors vous allez me dire c'est peu, non, c'est beaucoup, hein, 12% de plus d'un million d'associations, il y a donc plus de 100 000 associations qui emploient des salariés depuis un salarié jusqu'à des associations qui sont plus que des PME, hein,
oui.
Qui sont jusqu'à 500 salariés. Alors c'est essentiellement concentré les grands nombres de salariés sur deux types d'associations, les associations autour des établissements médico-sociaux. Ouais. On comprendra bien que là, le professionnalisme est de mise et totalement indispensable. Et les grandes associations internationales, les ONG, toutes ces associations ont besoin de s'appuyer sur un réseau de salariés. Et ces deux types d'associations salarient plus de 60% de l'ensemble des salariés dans le secteur associatif.
D'accord.
Mais aujourd'hui, encore une fois, la professionnalisation rend indispensable ce qui est nouveau et tout à fait passionnant, de faire vivre une association autour d'administrateurs qui sont, de par la loi, des bénévoles, autour de bénévoles qui appuient le travail des salariés et de salariés. C'est quand même une richesse qui distingue complètement une association même employeuse d'une entreprise employeuse.
Oui, oui.
Qui
oui.
ne connaît pas ce
tout
type de fonctionnement.
Oui, puis des nouvelles fonctions aussi. On a beaucoup, on va dire, de bénévoles qui ont connu aussi cette évolution dans leurs responsabilités. On en parlait tout à l'heure, entre des bénévoles qui, justement, dans des, notamment des associations de village, faisaient ça, et puis finalement se retrouvent avec un ou plusieurs salariés, et en fait, ça change totalement de casquette. Et quand on disait dans le fonctionnement et dans l'évolution, forcément, on est obligé de faire évoluer certaines choses dans les structures, quoi.
Il y a réellement une forme de professionnalisation qui est en cours, mais qui est encore assez peu valorisée, que ce soit à l'université, comme avec le gouvernement, de la vie associative. Mmh. Et du coup, il y a une reconnaissance à travailler qui est en cours, d'ailleurs, à l'heure actuelle, mais qui, bien sûr, va prendre un peu de temps et qui se relie à différentes strates, que ce soit nationales et puis sur les différents territoires. Néanmoins, en attendant cette reconnaissance qui soit nationale, il faut quand même citer qu'il y a énormément d'entreprises qui travaillent avec des associations amies dans le secteur, par exemple, médicalisé, de maisons de retraite et autres, ce qu'on appelle souvent les associations amies, ou des grosses fondations. Et grâce à ça, non seulement ça permet aussi d'avoir une vie face à des secteurs qui sont aussi parfois en difficulté de recrutement, mais aussi une forme d'expertise. Les associations ont encore du mal à aussi également valoriser et faire reconnaître des formes d'expertise qu'elles peuvent avoir, que ce soit sur le secteur du handicap, sur des questions très précises, de l'accompagnement en fin de vie, sur toutes ces choses-là. Et il y a une vraie reconnaissance qui doit accompagner la professionnalisation actuellement associative.
Ah
oui. Oui, alors Tiffaine parle des adultes, voire des personnes âgées, il y a aussi les jeunes. Et je reviens à la loi de 1901, elle prévoit que des mineurs s'associent avec des majeurs. Il n'y a aucune limite d'âge, ça a été rappelé par une loi récente, donc on peut avoir, je vous plaisante un peu, un enfant de 3 ans dans un conseil d'administration d'association, la seule condition c'est qu'il ait l'autorisation de ses parents.
Ouais.
Voilà. Mais simplement aujourd'hui, il y a relativement peu de temps pour pallier cette difficulté de faire engager ensemble des adultes et des enfants, on a inventé des juniors associations qui permettent, avec l'aide d'une association ou l'aide d'adultes majeurs, à des jeunes d'avoir presque toutes les caractéristiques d'une association, dont le fait de pouvoir avoir de l'argent, de collectivités territoriales, de pouvoir construire des vrais projets. Et ça, c'est très important pour l'avenir du bénévolat et surtout l'avenir de l'engagement.
On en avait parlé, je crois, il y a quelques temps cette fois, des juniors asso. Je pense qu'elle est encore en podcast sur le site de la radio, dans la rubrique Question en vrac à le break, mais c'est vrai que c'est tout des évolutions qui permettent aussi, et puis de vraiment d'avancer et de permettre à des jeunes de s'impliquer, parce que souvent, il faut se le dire, même c'est pas tout le temps le cas, mais souvent, quand il y a les parents, quand il y a la famille qui s'engage, ça peut donner envie, mais là, au moins, vraiment, ce dispositif, il permet à des jeunes de réaliser leur projet, mais d'être accompagnés dans un cadre sécurisé. Donc, ok. Pour les chiffres, on avait terminé un petit peu, je crois que. Philippe, vous vouliez revenir quand même sur, pour terminer l'émission, un peu sur les nouvelles limites, peu à cette liberté associative.
Oui, il se trouve que pour des raisons que tout le monde comprendra, le gouvernement a souhaité instauré une nouvelle loi, alors la loi du 24, que je me trompe pas, de mois, août 2021, et le titre officiel, c'est une loi confortant le respect et les principes de la République. Alors, c'est une loi qui a été prise dans un contexte difficile, où aujourd'hui la République s'est sentie, en tout cas le gouvernement estime que la République peut être attaquée de manière diverse, notamment lors d'attentats. Et donc, il a semblé nécessaire au gouvernement d'instaurer une loi qui a des tas de qualités, enfin qui est reconnue par tout le monde, mais c'est une loi qui limite quand même les libertés, plusieurs libertés importantes, et il faut le savoir. Alors, nous sommes dans une république qui reste démocratique, la loi a été votée par le Parlement, mais elle limite quand même des libertés. Alors, elle limite des libertés d'enseignement. C'est beaucoup plus compliqué pour des parents de faire l'enseignement de leurs enfants chez eux. Voilà, donc c'est une loi qui limite des libertés d'enseignement. Donc il faut une demande préalable qui est contrôlée par le ministère de l'Intérieur si on veut éduquer son enfant seul. Ce qui était une liberté fondamentale. Alors, même si elle touche très peu de nos concitoyens, elle existait quand même. C'est une limitation de liberté qui est importante. Il y a une deuxième mise en cause, qui est la liberté d'association. C'est pour ça que j'en parle.
Ben.
Oui, les associations sont soumises aujourd'hui à un engagement préalable. Alors, il y avait déjà des engagements préalables auparavant, mais qui étaient davantage des engagements de collectivités territoriales. Une région a le droit de demander un engagement à une association. Alors, la plupart de ces engagements portaient sur le respect des valeurs de la République, ce qui peut ne pas paraître choquant à personne. On s'engage à respecter les valeurs de la République si on demande des deniers publics.
Oui.
Si on demande pas de deniers publics, on reste sur la loi de 1901. Mais si on demande des deniers publics, on accepte de signer un engagement. Simplement, depuis 2021, cet engagement est beaucoup plus contraignant et porte sur des actions même de l'association. Et aujourd'hui, les associations peuvent être mises en difficulté quant à leurs actions. Par exemple, une association qui appellerait à la désobéissance civique face à une action voulue par un gouvernement ou un préfet, cette association pourrait et peut, c'est du présent, se voir couper toute subvention publique. Rappelez-vous l'affaire des bassines, par exemple. Eh bien, une association peut se voir refuser toute subvention publique si elle a soutenu la désobéissance civile par rapport à ce mouvement. Alors, bien sûr, c'est rare, mais c'est dans la loi, donc ça peut être possible. Ça peut être possible régulièrement, et donc chaque fois, les associations font appel à des tribunaux administratifs qui très souvent casse des arrêtés préfectoraux. C'est bien qu'il y a là une question de liberté publique qui est en cause, qui n'est pas aujourd'hui tout à fait résolue. Donc, simplement, le rapport à 1901, une totale liberté d'association, 2021, on l'a réduit pour des raisons, encore une fois, qui peuvent être légitimes, mais on réduit quand même une liberté fondamentale.
À être attentif que justement on n'est pas, voilà, que ça continue pas à aller dans ce sens-là et que on arrête de pondre de nouvelles lois qui nous permettent pas de rester aussi libres, on va dire, dans cette création d'associations.
Oui, et j'ajouterais que des fois la liberté va être limitée aussi par un défaut de reconnaissance. Notamment à l'heure actuelle, pour les jeunes mineurs, il y a une complication en cours, puisque à la Commission européenne, il y a la lutte contre le blanchiment d'argent et les fraudes qui se sont accentuées. Et dans ces luttes-là, ils ont du mal à reconnaître les associations de faits et les projets de jeunes mineurs. Et donc, quand les établissements bancaires veulent suivre à la lettre ce que la Commission européenne vient de dire et qui va complètement en contre-défaut de la loi, il y a une difficulté aujourd'hui plutôt explicative, informative et de reconnaissance de ces projets associatifs qui pour ne pas les mettre tout de suite dans une case, on va lutter contre la fraude, donc on va éliminer complètement un groupe de jeunes bénévoles associatifs. Mmh. Ouais. Donc parfois, ce sont des limitations qui vont être vraiment liées à d'autres prérogatives juridiques qui sont en cours et qui peuvent être liées vraiment à notre préfet, aux commissions plus globales, au Sénat, etc. Et donc, il y a vraiment une information qui doit être de plus en plus développée, une sensibilisation sur le fait associatif pour qu'on continue d'accompagner cette évolution sociale.
Mmh. Ok, alors on a fait le tour, je trouve que c'était... J'espère que les auditeurs sont comme nous, comme moi, ont appris pas mal de choses et c'était important de revenir sur cette base-là. On a fait le tour, Philippe et Tiffen ?
Oui, je crois qu'on a fait le tour.
Après, comme on l'a dit, chaque question aurait pu faire le sujet d'une émission, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Et donc, je vous remercie encore. Bien évidemment, si vous avez pris en cours cette émission, ben, vous pouvez la retrouver en podcast hein, sur www.petitjibus.fm dans la rubrique questions en vrac à le brac. Et donc je remercie de nouveau Tiffen, merci pour ta participation.
Merci à toi.
Et merci Philippe aussi pour.
Merci à toi et merci de nous aider à défendre la liberté d'association.
C'est normal en tant qu'association. Et donc je le rappelle, Tiffen est responsable du service associatif et Philippe est président de la Ligue de l'enseignement. Merci d'avoir fait le déplacement. Et si vous auditeurs, vous avez des questions, des sujets à aborder, eh bien n'hésitez pas à nous en faire part via les différents réseaux, le site internet ou le mail. Belle fin de journée à vous deux.
Merci.
Merci.
Au revoir.